Radio G 101.5 FM.
The day I follow Aubrey Hale Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Salut, bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Infoculture tous les mercredis à 19h sur Radio G. Alors ce soir, on va avoir un conte philosophique envoyé par Pablo, toujours confiné à casa. On va écouter de la bonne musique proposée par François, qui est à Melbourne en Australie. Vous voyez, c'est international, mais c'est aussi local, puisque on va parler de plein de choses qu'on aime, comme d'habitude, et de la bonne musique. Donc c'est Bande Geek Mafia. On démarre l'émission alors avec un titre ensoleillé. C'est l'été. Imaginez, vous êtes au camping, vous avez envie de danser. Et vous écoutez Denis Bennett. Alors Denis Bennett, c'est proposé par François, qui est à Melbourne, en Australie. Il nous envoie du soleil, il nous envoie de la lumière. C'est tout de suite dans Bande Geek Mafia sur Radio G. 101.5.
There is no question.
C'est l'été dans Bande Geek Mafia. Denis Bennett, Mr. Experience. Alors avant de parler philosophie, hein, bien sûr, il faut quand même vous expliquer que nous allons partir dans un voyage cérébral avec Pablo qui va nous parler de Shutter Island. Alors Shutter Island, c'est un film très célèbre, hein, bien sûr, mais tiré d'un roman non moins célèbre de Denis Lehan. Et Shutter Island, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le voyage obscur dans les cauchemars d'un policier. Voilà, voilà comment on peut le présenter. Et puis tout de suite après, on parlera bande dessinée, on parlera série, bien sûr, comme d'habitude. Mais je vous laisse d'ores et déjà avec Pablo pour la première partie de sa chronique sur Shutter Island, cinéphilo dans Bande Geek Mafia, sur Radio G101.5. La radio qui fait le point.
Yo les Bande Geek Mafia, ici Pablo en direct de Casablanca au Maroc, où on n'en peut plus d'être confiné. Je vous propose cette semaine un voyage cérébral, un moment philo pour vous sur Bande Geek Mafia, www.radio-g.fr ou 101.5 FM. Merci à vous les amis. Des contes philosophiques, je vous propose une analyse, une interprétation philosophique d'un film, Shutter Island de Martin Scorsese, 2010. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, j'espère stimuler votre curiosité sans spoiler. Pour celles et ceux qui l'ont déjà vu, j'espère aiguiser votre intérêt à le revoir avec un regard neuf. L'histoire se déroule en 1954 sur l'île Shutter Island, au large de Boston, aux USA. Tout commence sur un bateau qui transporte deux marshals, deux agents de police fédéraux du département de la justice américaine. Le marshal Teddy Daniels, interprété par Leonardo DiCaprio, et son partenaire Chuck Howley, interprété par Mark Ruffalo, excellents tous les deux dans leur rôle, qui débarquent sur une île pénitentiaire, psychiatrique, où sont enfermés de dangereux criminels. Ils viennent enquêter sur la disparition mystérieuse d'une patiente détenue, Rachel Solando, reconnue responsable de la mort de ses trois enfants, qui semble s'être évaporée de sa chambre où elle était enfermée. Très vite, les deux enquêteurs sont confrontés à des résistances et des difficultés pour accéder à la vérité. Le personnage principal, Teddy Daniels, va devoir faire preuve de courage et de persévérance pour déjouer les embûches et sonder au plus profond de lui-même pour résoudre cette énigme. C'est un thriller psychologique qui nous plonge dans une ambiance glauque de la psychiatrie criminelle des années 50, mais aussi dans les méandres fascinants de l'inconscient du personnage principal. Le film est tiré d'un magnifique roman de Denis Lehan de 2003. Dans le film, nous suivons l'enquête policière du marshal Teddy Daniels. Or, qui est vraiment ce personnage? Un brillant policier hanté par ses souvenirs de guerre, victime d'un syndrome post-traumatique et joué d'un complot machiavélique. Ce qu'il prétend être? Ou est-il cet être tourmenté par ses traumatismes qui se manifestent vraiment dans ses rêves et peut-être en dehors et qui cache un terrible secret? Mais alors, qui est le 67e patient de l'hôpital Ashcliff, nommé Andrew Ledis, celui qu'il prétend chercher et qu'il rend responsable de la mort de sa femme? Cela résonne étrangement avec un sujet classique du Bach. Suis-je ce que j'ai conscience d'être ? En effet, pour problématiser le film, nous pourrions formuler les choses ainsi. La connaissance de moi-même, que j'acquiers grâce à la conscience, correspond-elle véritablement à la réalité de ce que je suis ? La conscience que j'ai de moi suffit-elle à me connaître ? Ou y a-t-il une part d'ombre, quelque chose qui m'empêche d'accéder à la connaissance de moi-même, voire même à ma conscience ? Pour comprendre qui est ce personnage, je vous propose d'analyser deux rêves qu'il fait. Les rêves qui hantent comme des fantômes les nuits du Marshall Telly Daniels, où se mêlent ses traumatismes et sa culpabilité de n'avoir pu sauver les siens, qui manifestent et nous révèlent son inconscient et sa vraie personnalité, dont il ne sait rien et qu'il ne peut maîtriser. Nous soupçonnons l'existence en nous d'un inconscient actif et perturbateur, constitutif de notre personnalité, qui se manifeste notamment dans nos rêves ou encore dans la maladie. D'ailleurs, c'est souvent autrui qui nous en révèle les signes. Lapsus révélateur, acte manqué. Et c'est encore autrui, comme professionnel, psychologue ou psychanalyste, qui nous aide à interpréter les symptômes inconscients. Dans ses 5 leçons sur la psychanalyse, 3e leçon, Sigmund Freud propose de distinguer à propos du rêve le contenu manifeste du rêve, c'est-à-dire le rêve tel qu'il nous apparaît, tel que nous l'évoquons le matin, en images et en sensations, les émotions dont on a le souvenir. Le contenu manifeste du rêve, donc, à distinguer des idées oniriques latentes, qui sont les pulsions et désirs inconscients qui travaillent en nous. D'ailleurs, il écrit, 2, je cite, « Le contenu manifeste du rêve est le substitut altéré des idées oniriques latentes. Et cette altération est l'œuvre d'un moi qui se défend. Elle naît de résistances qui interdisent absolument aux souhaits inconscients d'entrer dans la conscience à l'état de veille. Mais dans l'affaiblissement du sommeil, ces forces ont encore assez de puissance pour imposer du moins au désir un masque qui les cache. » Fin de citation. Autrement dit, nous avons des mécanismes de défense, censure morale, plus tard appelé le surmoi par Freud, qui refoulent et travestissent nos pulsions inconscientes, trop brutes, violentes ou immorales, souvent morbides et sexuelles, pour protéger notre conscience. Cette censure cherche à refouler nos pulsions inconscientes durant la journée. Mais la nuit, quand nous dormons, notre vigilance se relâche quelque peu. C'est ainsi que se crée et se manifeste le rêve dans ses formes, images et émotions, comme des énigmes à déchiffrer, des symptômes et des signes de nos pulsions inconscientes à interpréter. Dans le film, le personnage du docteur Nering, un des psychiatres de l'Institut, spécialiste de la lobotomie transorbitale, que l'on soupçonne être un ancien nazi, nous donne une clé d'interprétation du film. Il rappelle que « trauma » en grec veut dire blessure, et « traum » en allemand veut dire rêve. Nos rêves, et plus encore nos cauchemars, manifestent nos blessures. Lui pense que les blessures engendrent le mal. Il dit « les blessures engendrent des monstres ». Il est étonnant de voir à quel point les rêves du Marshall sont colorés, alors que la réalité du jour est terne, grisâtre et souvent glauque. N'est-ce pas un indice que nous donne Scorsese pour que nous comprenions la vérité ? Premier rêve, à 25 minutes, 35 secondes. Je l'intitule « Laisse-moi partir ». C'est un dialogue en rêve avec sa femme, dans leur ancienne maison qu'elle a incendiée. Au milieu d'une pluie de pétales d'abord, puis de cendres et du feu qui commence à prendre partout. Elle lui reproche son alcoolisme, qu'il essaye de cacher. Mais derrière ce souvenir d'un reproche, se masque une culpabilité bien plus profonde et douloureuse. Une partie de cette douleur est la perte de sa femme.
Ah, en ai trouvé plein d'autres, Teddy. Seigneur, ça t'arrive encore d'être sobre?
J'ai tué un tas de monde pendant la guerre.
C'est à cause de ça que tu bois?
T'es réel?
Non. Elle est toujours là.
Qui? Rachel?
Elle n'est pas partie. Tu te souviens quand on allait dans la petite maison en été? On était tellement heureux. Elle est là.
Pas l'intention de partir. Je t'aime tellement.
Je ne suis qu'un tas d'os dans une boîte, Teddy.
Non.
Si, vraiment. Il faut te réveiller.
Je ne partirai pas. Tu es là.
Oh, maintenant. Il faut que tu te fasses une raison. Mais elle est là. Et lui aussi.
Elle lui dit que Rachel est là. Mais laquelle? Rachel Solando? La femme prétendument disparue ou une autre? Et Lédis est là. Qui est Lédis? Elle lui demande de la laisser partir, de faire son deuil. Il répond qu'il ne peut pas. Elle pleure dans ses bras. Elle est mouillée sous la pluie de cendres, puis se transforme elle-même en cendre entre ses bras. Cendre qui tombe au sol. Il est entouré de flammes. Son deuil est impossible. Fin du rêve. Ce rêve doit être vu en miroir, en correspondance exacte avec la séquence dans la prison du bloc C, où il s'éclaire avec des allumettes et a un dialogue avec le patient George Noyce qui tente de lui révéler la vérité.
Voilà, c'était la fin de la première partie du Cinéphilo proposé par Pablo ce soir au sujet du film donc Shutter Island de Martin Scorsese. On écoute tout de suite un morceau de musique proposé par François, notre fidèle auditeur australien. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite. On est bien sur Radio G, dans Bande Geek Mafia.
Nothing in it for me, except a heart that's lazy. Running for my own life now, I'm really turning some time. Looking up to the sky for something I may never. Yeah.
daughter. Let me in if I break and be quiet if I shatter.
Yes Blood avec le titre Andromeda. Tabang Geek Mafia sur Radio G. Tout de suite, la suite. Bien sûr, nous allons écouter la deuxième partie du Cinéphilo consacré à Shutter Island.
Et nous continuons notre voyage cérébral.
Deuxième rêve, à 55 minutes et 8 secondes. Je l'intitule « Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé ?» Ce rêve est à mettre en parallèle avec la séquence, avant-dernière séquence du film de révélation de la vérité dans le phare. La lumière blanche est tellement violente qu'elle nous éblouit. Nous nous retrouvons dans une nuit glacée où la neige tourbillonne à la libération du camp de Dachau. Il marche en costume complet trois pièces dans le camp de la mort, le long des fils barbelés, près des corps de juifs morts dans la neige. Il marche au rythme du martèlement des touches de piano et de percussions. Des voix radiophoniques parlent en allemand ou en yiddish. Rachel Solando, celle qui est censée être disparue, est couchée dans la neige, morte gelée avec sa fille dans les bras. Il passe d'abord devant elle, puis se retourne et s'aperçoit qu'elle le regarde fixement. Ses yeux ne sont plus morts, mais bien vivants. Une petite fille est allongée sur Rachel. Elle ouvre les yeux brusquement. Il la prend dans ses bras. Elle lui dit « You should have saved me. Tu aurais dû me sauver. You should have saved all of us. Tu aurais dû nous sauver tous. » Il recule. Commence alors la musique de Gustav Mahler. Il entre dans le salon d'une maison plongée dans l'obscurité. Un feu brûle dans l'âtre devant un homme assis dans un fauteuil. Ce dernier se retourne. Une immense balafre lui barre le visage. Ils se reconnaissent. C'est Ladis, le prétendu pyromane, qui lui dit « Sans rancune, mon pote. » Il lui offre une clope qu'il allume avec une de ses allumettes meurtrières. Puis, se transforme en Chuck, son partenaire Marshall, qui le rappelle à son devoir. Il dit que le temps passe. Ils sont interrompus par un cri strident. Rachel Solando vient de surgir, ensanglantée, son visage couvert d'éclaboussures de sang. Et à ses pieds, les trois enfants qu'elle a assassinés, baignant dans leur sang sur le tapis du salon. De nouveau, il soulève la petite fille au regard à la fois doux et accusateur qui lui dit « I am dead, je suis morte. » Puis « Why didn't you save me ?»« Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé ?» Teddy répond « J'ai essayé, mais le temps que j'arrive, il était trop tard. » Il marche avec elle dans la pièce, puis recule. Et la pièce se transforme alors en berge, près du petit lac de leur maison de campagne. Sur sa gauche, il y a le kiosque avec la balancelle. On le retrouve immergé jusqu'aux jambes dans l'eau. Rachel Solando à ses côtés. Il immerge dans l'eau le corps de la petite fille qui le regarde fixement. et de façon accusatrice à travers le liquide.
Si.
Tout se trouble. Il se réveille en sursaut. Ce rêve est clairement l'expression de son surmoi, de sa culpabilité et en même temps de ses mécanismes de défense. C'est l'expression de la double blessure, plus profonde que celle de la perte de sa femme. Quelle est cette vérité cachée et cette douleur insondable qui le ronge nuit après nuit? On soupçonne très vite qu'il ne s'agit pas d'un simple complot visant à piéger le policier, mais que quelque chose de plus profond et plus essentiel se joue à propos du personnage principal. La fin n'est pas si surprenante que ça. Martin Scorsese a semé de nombreux indices tout au long du film pour nous amener à deviner la fin. Son intention est plus de nous interroger en tant que spectateur. Pourquoi vois-tu ce que tu vois? Pourquoi cela s'est-il passé comme cela pour Teddy Daniels? Quelle version de l'histoire préfères-tu? Et du coup, celle que tu préfères n'est-elle pas celle qui t'arrange? Pour comprendre la fin, je reviens à l'origine. Au début du film, Martin Scorsese rend hommage à Stanley Kubrick dans Shining. L'eau, les mouvements de caméra, la musique lancinante d'abord, puis puissante avec les corps qui sonnent dans la brume. Mais c'est sans doute le fait qu'il y ait un jeu de miroir entre les états d'âme du personnage principal et l'extérieur qui rapproche les deux films. C'est comme si les autres personnages, réels ou fictifs, étaient des reflets de Teddy Daniels. Comme si les objets autour, tableaux, gravures, sculptures, éléments naturels, la mer, le feu, la tempête, étaient des reflets de sa psyché, de ses états de conscience. Irons-nous jusqu'à dire des projections délirantes de lui-même? Ce film interroge clairement aussi la folie, la façon dont elle a été traitée dans l'histoire, et notamment au moment charnière de la psychiatrie des années 50. La folie du contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. La folie des camps nazis qui restent dans un angle mort de notre inconscient collectif. La folie des personnages du film et de son principal en particulier. Notre folie. Ne deviendrions-nous pas fous nous-mêmes dans un tel contexte? Enfermés comme lui dans un tel monde cauchemardesque? Qui est fou et qui ne l'est pas? Michel Foucault écrivait dans « Histoire de la folie à l'âge classique ». C'est vers l'autre monde que part le fou dans sa folle nacelle. C'est de l'autre monde qu'il vient quand il débarque. Et un peu plus loin, il écrit. Il est le passager par excellence, c'est-à-dire le prisonnier du passage. Et la terre sur laquelle il abordera, on ne la connaît pas. Tout comme on ne sait pas quand il prend pied de quelle terre il vient. Il n'a sa vérité et sa patrie que dans cette étendue inféconde entre deux terres qui ne peuvent lui appartenir. Merci de votre écoute. À la semaine prochaine.
Merci à Pablo pour ce merveilleux voyage obscur dans les cauchemars d'un policier, cinéphilo Shutter Island. On a hâte plutôt d'en écouter un suivant, un nouveau la semaine prochaine ou à la rentrée peut-être en direct. Alors, si vous aimez la collaboration entre Scorsese et Leonardo DiCaprio, cette collaboration est très riche. Donc on a parlé ce soir de Shutter Island en 2010, mais elle a commencé en fait avec Gangs of New York, puis elle s'est poursuivie en 2004 avec Aviator, et puis suivront Les Infiltrés en 2006, Shutter Island, Le Loup de Wall Street en 2013, et prochainement ça continue avec Killers of the Flower Moon et Roosevelt. Voilà, donc la collaboration Scorsese-DiCaprio n'est pas terminée. Bien, on continue l'émission. On va écouter un peu de musique. J'avais envie d'écouter Queens of the Stone Age avec I Sat by the Ocean, parce qu'on a envie de s'asseoir près de l'océan. C'est l'été dans Monde Geek Mafia sur Radio G. C'était Queens of the Stone Age dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
Qu'as-tu donc dans ton panier? Du fromage, qu'as-tu donc dans ton panier? Du fromage de chez Morel.
Alors ce soir, j'ai une bande dessinée qui s'appelle Pucelle. Alors, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Florence Dupré-Latour, qui, gamine puis adolescente, a été taraudée par la chose qu'on ne dit pas. Car dans la famille très catholique de Florence Dupré-Latour, la sexualité est un tabou. Que l'autrice de 42 ans met en scène avec puissance et acidité dans Pucelle, la suite de son autobiographie dessinée. Alors en 2016, dans Cruel, elle assumait avoir maltraité, voire carrément trucidé des animaux lorsqu'elle était petite fille, se livrant au lecteur sans une once de complaisance. Elle continue aujourd'hui de tisonner une enfance marquante, mouvante, désossant les traumatismes subis. Née en Argentine, elle a grandi dans un monde d'expatriés. Son père est PDG d'une grosse filiale d'assurance. Sa mère, ancienne institutrice, s'occupe des enfants. Les expats restaient entre eux par affinité de langue, de culture, de classe sociale. Il y avait donc un repli familial, une sorte de premier confinement, un hôtel avec malice. Dans la fratrie de cinq, Florence est aussi proche, proche de sa jumelle, Bénédicte, qu'elle jalouse. Elle est aussi proche de sa jumelle qu'elle jalouse son petit frère. Elle dit « J'ai très vite ressenti la violence de genre. Mes parents portaient sur lui un autre regard que sur mes sœurs et moi. » Alors elle enrage de n'être pas un garçon. Passionnée de lecture, elle avale Tintin, Les Trois Mousquetaires ou Corto Maltese. Je ne pouvais donc pas devenir moi-même un héros. Avec distance, la quadragénaire décrit sa sensation de n'avoir alors aucun pouvoir, sauf sur les bestioles. Le père, taiseux, offre une image nuageuse. La mère enfouit ses émotions et se soumet à son mari, même lorsqu'il est ouvertement injuste. Après l'Amérique du Sud, les Dupré-Latour s'installent à la campagne près de Troyes. J'ai bien vécu ce retour, passant 5 ans dehors, dans la nature, dit-elle. Tout le monde va à la messe le dimanche, prie quotidiennement. La vie nous était expliquée à travers des images fascinantes, celles de l'enfer ou du paradis, mais absolument pas réelles. Quand Florence a 12 ans, nouveau départ collectif, c'est cette fois vers la Guadeloupe. Elle côtoie des Noirs pour la première fois. Elle avait des a priori racistes et elle se sent fascinée par ces Antillais extravertis qui n'ont pas de problème avec la sexualité. La préadolescente, elle, rejette en bloc la féminité qui lui échoit. À l'époque, quand une camarade disait qu'elle avait ses règles, je la considérais comme une prostituée. Devenir pubère fut pour moi un traumatisme. On ne m'avait rien dit. Voilà. Fin de citation. La découverte des jeux de rôle lui apporte, de façon inattendue, une forme de libération. Elle aborde brillamment cet univers dans Siguiche ou Le Maître du Jeu en 2015, se cache derrière les personnages qu'elle interprète. Enfin, je n'étais plus cette fille que je détestais. Cela m'a sauvé d'un univers anxiogène à la maison. À demi-mot, elle évoque un chagrin d'amour de jumelles, à peine esquissé dans ses pages et sur lequel elle reviendra dans Jumelles. En les lisant, on comprend que Bénédicte se révèle une adolescente solaire, à l'aise avec ses pairs, tandis que Florence préfère la solitude. De retour en métropole à Lyon, elle atteint des sommets de mal-être. Sa mère tente de l'aider à trouver sa voie. Elle m'a d'abord demandé ce que je voulais faire et j'ai grogné. Puis elle m'a interrogé sur ce que j'aimais faire, ce qui était intelligent. J'ai grogné à nouveau, puis parlé du dessin que je pratiquais en solitaire sans montrer ce que je faisais. Après des études à l'école Émile Cole de Lyon, elle ose envoyer une carte de vœux artisanale à Johann Sfar, alors un des rares auteurs de BD à avoir un site internet, donc à être facilement joignable. Ce dernier apprécie et l'engage sur l'adaptation animée du Petit Vampire, mais le travail d'équipe ne lui convient pas, et Florence Dupré-Latour se lance sur une voie plus solitaire. La bande dessinée m'a appelé, quelque chose dans sa structure, sans doute l'ellipse, donc le non-dit, est en adéquation totale avec ma structure familiale. Avec la saga psychédélique Capucin, en 2006-2008, au fort parfum de Tolkien, elle explore déjà le rapport aux parents, à la famille, à la gémellité. Il lui faudra attendre quelques années pour revenir plus directement sur son passé, quand on ose se raconter aussi frontalement comment les relations se déroulent-elles ensuite avec les siens. Ça se passe, lâche-t-elle laconiquement. Avant d'ajouter d'être consciente qu'il n'est jamais agréable de se voir réduit à un objet caricatural. J'imagine bien que mes proches se sentent chosifiés, mais je ne peux faire autrement pour dépeindre mon paysage mental. Heureusement, mes parents comprennent que c'est important pour moi et jugent aussi la qualité d'écriture. Aujourd'hui, j'ai passé le cap de la colère, je cherche à m'amuser et à questionner le lecteur à travers une forme tragicomique. Forme que cette amoureuse de Charlie Chaplin possède à merveille, adoptant un trait à la fois simple, parfois peu flatteur d'ailleurs pour se représenter elle-même, et très maîtrisée. Dans une douce bichromie, elle a choisi le rose, couleur de Barbie et du sang. Pour Pauline Mermet, son éditrice chez Dargo, Florence Dupré-Latour a inventé un langage dessiné. Par son dessin faussement naïf et mignon, elle prend le lecteur au piège de sa violence. Décidément surprenante, son précédent ouvrage, Carnage, en 2019, creusait de façon graphique le rapport à la pornographie. L'artiste évoque des influences multiples, Reiser, Sampé, Quentin Blake ou Claire Bretéché, mais aussi l'humoriste américain Andy Kaufman ou le groupe de hip-hop Stupéflip. Dans un contexte où les auteurs sont fragilisés, elle fustige le credo éditorial de la surproduction, mais goûte toujours le plaisir d'exercer son métier. Au point qu'elle s'inflige de vivre en ville pour continuer à créer. Si j'étais à la campagne, je serais pleinement heureuse, je me roulerais dans l'herbe toute la journée et je ne pourrais dessiner. Florence Dupré-Latour ou l'intensité sans compromis. Voilà, je vous conseille de lire Pucelle, le tome 1 chez Dargo. Ça fait 184 pages et ça coûte 19,99€. Voilà, son enfance tourmentée irrigue son œuvre, c'est piquant, c'est jamais complaisant. Voilà, découvrez Florence Dupré-Latour. Voilà. Un peu de musique. Alors, j'ai vu tout à l'heure que mon ami Charlie nous proposait, en ces temps troublés, d'écouter Bob Marley, en particulier No More Trouble. Je pense que c'est une excellente idée. C'est ce dont nous avons besoin. No More Trouble dans Bande Geek Mafia sur Radio G, 101.5. Voilà Bob Marley and the Wailers. No More Trouble dans Van Geek Mafia sur Radio G. Pam, pam, pam. Tout de suite, la suite, on va parler de séries télé. Alors je vais vous parler des guignols de l'espace. Après The Office, Steve Carell revient dans une grinçante odyssée spatiale qui tourne en ridicule l'ère Trump et sa guerre des étoiles. Alors bien sûr, c'est Space Force qui vient de débarquer sur Enix. Des étoiles plein les yeux, le général Mark Nerd, joué par Steve Carell donc, tout juste décoré du plus haut grade de l'armée américaine, est convié à la réunion des chefs d'état-major et il se voit déjà prendre les rênes de l'US Air Force. Mais lorsque le secrétaire à la Défense annonce la création de la Space Force, une sixième branche de l'armée chargée de la protection des satellites nationaux et de renvoyer les Américains sur la Lune, Nerd pouffe de rire, avant d'apprendre qu'il est nommé à sa tête et envoyé avec femme, jouée par Lisa Kudrow, et enfant, au fin fond du Colorado. Pas le choix, le président est sur le point de tweeter la nouvelle. Près de 10 ans après la fin de la version américaine de The Office, le producteur Greg Daniels et Steve Carell sont de retour avec Space Force, cette série comique parodie avec mordant les débuts de cette armée réellement créée par Donald Trump en 2019 pour assurer la domination américaine dans l'espace. Et toujours plus menacée par la soif de conquête chinoise. Space Force nous plonge dans les coulisses délicieusement navrantes d'un bataillon en carton, dont les treillis et camouflages aux motifs cratères lunaires donnent le la d'une symphonie de trouvailles exquises. Nerd écope en effet d'une unité grotesque constituée d'ados et d'astronautes proches de la retraite, où l'on s'entraîne au combat armé de ciseaux à ongles, d'une force spatiale dont l'utilité et le budget sont contestés de toutes parts, moqués au sein même du Pentagone. Festival de situations rocambolesques et défilé de hauts dignitaires bas du front, Space Force est une satire contemporaine à la Docteur Folamour de Stanley Kubrick, avec gros suppléments de rebondissements triviaux et de leaders puérils pour coller à l'ère Trump. Daniels et Carell frappent fort en moquant frontalement une Amérique bien loin d'être great again. Le président, personnage fantôme, n'est jamais nommé ni montré, mais colérique et redouté, crétin et accro à Twitter, il est identifiable en quelques secondes. Plus largement, c'est toute une classe dirigeante contaminée par la bêtise trumpienne qui est caricaturée, avec pour chef d'escadrille Mark Nerd himself, décideur ignorant, borné et impatient, plein de mépris pour la science, à laquelle il ne comprend rien. Il passe son temps à rabrouer son second, le raffiné et méthodique docteur Adrian Mallory, joué par John Malkovich, formidable John Malkovich, un emmerdeur, maugré le général Nerd, dont les tocs, les mimiques crispées et l'infinie mauvaise foi évoquent forcément Michael Scott, l'infernal patron de The Office. La coopération forcée de ce binôme improbable fait éclore des séquences souvent hilarantes, comme lorsque Nerd, sourd aux suggestions de l'équipe de Mallory, s'enfonce dans une opération farfelue de sauvetage de satellites, confiée à un astro-singe et à un astro-chien mis en orbite par la Maison Blanche pour tourner des vidéos mignonnes. Face aux gamineries de son supérieur, le docteur Mallory, ironique et désabusé, prêche dans le désert le respect du traité de l'espace, déplorant sa militarisation et sa transformation accélérée en champ de bataille. Au-delà de son écriture comique ciselée, Space Force dévoile peu à peu une attachante humanité. Steve Carell, spécialiste des personnages de losers attendrissants, fait de Nerd un grand candide touchant. Socialement inadapté, mari et père maladroit mais aimant, le général, rongé par ses sentiments, s'accommode en apparence de sa profonde solitude par sens du devoir. Loin d'être seulement un moteur à gag, le duo formé par Mallory, le scientifique inutile, et Nerd, le militaire fantoche, de plus en plus uni et en empathie, devient un ressort majeur de la satire. Car finalement, aussi opposés soient-ils, ni l'un ni l'autre ne sont à leur place dans ce merdier lunaire. Voilà, donc je vous conseille The Space Force, autour du général de Mark Nerd, joué par Steve Carell, propulsé malgré lui à la tête de la Space Force, une équipe de bras cassés et une astrophone bigarrée. Voilà. On n'a pas vraiment le temps de faire une pause musicale, alors j'enchaîne juste après un petit jingle sans transition avec la suite de la chronique série télé. Voilà.
Creature Shock Radio FM.
Alors avec le confinement, toutes les séries télé ont été bousculées, reportées, c'est très compliqué. Alors je vous explique un petit peu tout ça maintenant qu'on est en période de déconfinement. Alors Baby Yoda dans The Mandalorian, l'agent de la CIA Carrie Mathison dans Homeland, les médecins hospitaliers de The Resident, voilà. Ils n'apparaîtront pas sur les photos de famille, mais ils auront joué leur rôle, fidèle compagnon de ce printemps confiné qui a vu les Français s'abreuver massivement à l'une des seules sources de divertissement par temps d'épidémie, la télévision, allumée en moyenne 4h40 par jour en avril selon Médiamétrie. Donc c'est un record. Entre nouveautés attendues et rediffusion de rareté, le seul embarras pour les amateurs était le choix. Une surabondance bientôt appelée à s'achever. Le monde de la création télévisuelle doit, comme celui du 7e art, faire face aux effets de la crise sanitaire. Première préoccupation, l'interruption des tournages, survenue mi-mars, est toujours d'actualité, à l'exception de quelques projets Netflix relancés sous haute surveillance en Corée du Sud, en Islande et en Scandinavie, comme l'a détaillé Ted Sarandos, le PDG de la plateforme, dans une récente tribune au Los Angeles Times. Les nouvelles productions seront donc clairsemées pendant le dernier trimestre 2020. Les fans de The Handmaid's Tale, Euphoria ou encore Stranger Things, dont nous sommes, devront ainsi s'armer de patience avant de pouvoir découvrir la suite, car la production ne reprendra vraisemblablement pas avant l'été. Et comment consoler les inconditionnels de Succession et de Barry qui ont vu les tournages des prochaines saisons, censés débuter en avril, reportés sine die ? Plus chanceux, les admirateurs d'Elisabeth II devraient avoir la saison 4 de The Crown, comme prévu, avant les fêtes de fin d'année. Les acteurs ont enregistré une partie de leur voix en post-production via leur téléphone pendant le confinement, a rapporté la presse britannique. Plus qu'une anecdote, cet aperçu des coulisses de la saga royale en dit long sur les trésors d'imagination et les prouesses techniques que l'industrie devra mettre en œuvre pour se réinventer malgré l'épidémie. Pourra-t-on tourner des scènes d'amour dans le respect des règles sanitaires ? Donner vie à des fictions historiques sans avoir recours à des foules de figurants ? Comment travailleront maquilleurs, coiffeurs et habilleurs ? À quelle distance minimale les acteurs devront se trouver des cadreurs ? Derrière des questions pratiques entourant une éventuelle reprise des tournages, alors pas avant juin aux États-Unis où les studios discutent âprement conditions et garanties avec les compagnies d'assurance, les interrogations artistiques sont nombreuses. À l'antenne de la chaîne CBS, la série All Rise sur les coulisses de la justice américaine a déjà fait un louable effort en faveur du système D, réalisant l'intégralité de son épisode du 4 mai avec des acteurs à domicile filmés grâce aux applis de visioconférence Zoom, WebEx et FaceTime. La pirouette, si elle a permis de boucler la première saison, ne laissera pas d'impérissables souvenirs de mise en scène. Du côté des diffuseurs, l'urgence est à la question des stocks, afin d'éviter les trous d'air dans les prochains mois. Pour découvrir Nicole Kidman en thérapeute dans The Undoing et Jud Law sur l'île mystérieuse de The Third Day, initialement prévue au printemps sur HBO et en France sur OCS, il faudra par exemple attendre l'automne. Soucieuse de fidéliser leur audience et de limiter le manque à gagner publicitaire depuis mars, qui risque d'engendrer une diminution des budgets d'acquisition et de développement originaux, des chaînes gratuites choisissent d'étaler la diffusion de leurs feuilletons inédits. En France, M6 égrène désormais au rythme d'un épisode hebdomadaire, contre deux précédemment, la série américaine Why Women Killed. Hantée d'incertitudes, d'inquiétudes et de zones de flou, la période offre néanmoins des raisons d'espérer. Un projet suscite déjà beaucoup de curiosité, Social Distance, une anthologie sur le confinement, entièrement réalisée en confinement, telle que Netflix l'a commandée à Genji Kohan, qui avait merveilleusement su raconter un autre type de vie recluse dans Orange is the New Black, sa série carcérale culte. Le réel ou le pouvoir de repousser les limites de la fiction. Voilà, je voulais faire le point avec vous sur toutes les séries, entre Résignation, Système D, tout le monde rivalise d'ingéniosité. En tout cas, on aura quand même des choses à voir pour cet été. Et puis peut-être que c'est l'occasion maintenant de passer à autre chose, d'arrêter de regarder des séries et de sortir de chez soi. Mais toujours dans le respect, bien sûr, des règles de distanciation sociale. Portez des masques, lavez-vous les mains, tout ira bien. Alors, l'émission n'est pas terminée, mais bientôt quand même. On va écouter... je vais mettre un petit générique et puis on écoutera un morceau pour terminer l'émission d'aujourd'hui. C'est parti.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Voilà, on se quitte avec Queens of the Stone Age. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut.
I'm all alone in this crowd. Who are you to me? Who am I supposed to be? Not exactly sure anymore. Where's this going to? Can I follow through? Or just follow you? For a while, does anyone ever get this right? I feel no I feel is real. To be vulnerable is needed most of all. If you intend to truly fall apart, you think the worst of all is far behind. The vampire of time and
sur Radio G avec Ambiance Soleil à l'heure de l'apéro tous les dimanches de midi à 14h pour une émission qui sent les épices et le sable chaud.
Jetez vos mouchoirs, changez vos horizons et profitez-en pour faire vos dédicaces.
Ambiance Soleil, c'est du soleil sur les ondes avec 2 heures de musique des Caraïbes et de l'océan Indien.
Alors n'oubliez pas de nous retrouver Ambiance Soleil avec Laura,
JP
et Monsieur Marcel tous les dimanches de midi à 14h.
C'est nous-mêmes qui l'a.